15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous présente une nouvelle fois. Vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux gestes qui sauvent à la veille de la journée mondiale des premiers secours qui se déroulera demain avec tout plein d'animations partout en France. Avec notre invité Louis-Marie Poitou de la Croix-Rouge française, nous ferons le point sur tous ces gestes qui peuvent nous permettre de sauver une vie un jour. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la scarlatine, qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment la soigner. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un problème qui gâche la vie de beaucoup de femmes, la cystite. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de sexualité et de culpabilité. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Maxime, 27 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Voilà, j'ai un bébé de 18 mois et je me demandais s'il était recommandé d'utiliser une lessive particulière ou si je pouvais utiliser une lessive plus classique. Merci.
Alors c'est vrai qu'en supermarché, aujourd'hui, on trouve tellement de marques de lessive qu'on ne sait plus du tout laquelle choisir. Et c'est vrai quand on a un petit bébé, pour laver ses vêtements, qu'il faut parfois laver très très souvent en plus, c'est un peu un casse-tête. Donc en l'occurrence, cet auditeur, il nous parle d'un enfant de 18 mois. Bon, ce n'est pas tout à fait non plus un nouveau-né. Est-ce qu'on doit absolument, Jimmy, acheter une lessive spéciale pour la peau des bébés finalement?
Alors 18 mois, ce n'est plus vraiment bébé, on parle de nourrisson. C'est vrai que chez les tout-petits, les nouveau-nés, la peau est très fine et très sensible, notamment à des perturbateurs externes. Et juste un petit mot, pour lorsque le bébé vient de naître, le vernix qu'on a sur la peau à la naissance, il ne faut pas être pressé de donner le premier bain. Prenez un peu de temps parce que finalement, ça protège l'enfant. Donc 18 mois, c'est finalement un nourrisson. Donc il faut utiliser une lessive un peu spéciale, mais pas spécialement pour bébé.
Du coup, alors pour les nouveau-nés, par contre, ceux vraiment qui sortent de la maternité, par exemple, il faut vraiment opter pour une lessive spéciale peau sensible bébé. Il y a carrément des bébés sur le bidon là, de lessive.
Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment bébé. On parle d'hypoallergénique. C'est des lessives qui ont été testées sous contrôle dermatologique pour justement limiter un peu les effets secondaires et les effets d'allergie notamment. Donc à ce moment-là, elles pourront servir à tout le monde. L'idéal, c'est d'avoir des agents plutôt naturels, type bio si on peut se le permettre, parce que évidemment que ça a un coût. Mais globalement, il faut éviter tout ce qui contient des parfums, parce que forcément, c'est des arômes artificiels. Et eux, forcément, on aime bien que ça sente bon, mais ça peut être irritant pour la peau.
Alors, une fois qu'on a cette lessive, finalement, l'idéal, c'est qu'il en reste plus tellement sur les vêtements, parce qu'en fait, on veut en acheter, on veut que ça sente bon. Mais ce qu'il faut pour que le bébé n'ait pas de problème derrière, c'est qu'à la fin, il n'y en ait plus finalement à la fin du lavage après la machine. Donc, c'est surtout le rinçage, je crois, qui est crucial pour le linge.
C'est vrai que c'est pas très écologique de dire ça, mais il faut éviter les cycles courts. Parce que finalement, c'est le fait de rincer puis de sécher qui permettra d'éliminer toutes les particules. Donc, pas de psychose avec la lessive, mais essayer de faire des cycles un peu plus longs, notamment pour les enfants, ça permettra de limiter le risque de réaction cutanée.
Et donc, il n'y a plus de résidus de lessive à la fin. Et donc, en plus, on n'en met pas des litres de la lessive. Ça, c'est un autre conseil. On respecte bien les dosages. Pas trop de lessive, ça ne sert à rien. On ne bourre pas trop la machine de linge non plus. Comme ça, le rinçage, il est bien efficace et la peau du bébé ne risque rien. Alors, un dernier conseil pour les bébés, peut-être Jimmy, il faut toujours laver les vêtements quand ils sont tout neufs par contre.
Oui, ça c'est une règle à vraiment respecter. Ça permet d'éliminer les résidus de produits chimiques liés au processus de fabrication. Et donc rincer et laver une fois les vêtements avant de les porter, c'est toujours mieux.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Claude, 43 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. J'ai entendu parler du vaccin Gardasil. Je m'interroge beaucoup dessus et j'hésite à le faire à ma fille qui a 9 ans. Et j'aurais souhaité avoir votre avis dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Alors effectivement, le vaccin contre le HPV, le papillomavirus, il y a régulièrement des polémiques autour de sa sécurité, de son efficacité. Bref, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, les autorités françaises le recommandent pour les petites filles à partir de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans dans certaines conditions. Votre avis, Jimmy, sur ce vaccin?
Alors mon avis, il est très clair. Ce vaccin protège contre le cancer du col de l'utérus. Alors ça n'empêchera pas le dépistage, c'est-à-dire qu'il faudra quand même faire des frottis au cas où, malgré tout, il y ait quelque chose. Mais on sait qu'il y a 3000 nouveaux cas de cancer. 1000 femmes décèdent chaque année de ce cancer-là. Donc on a un moyen plutôt efficace, qui ne coûte pas cher finalement, et surtout avec un peu de recul. Donc allez-y, faites vacciner vos enfants, notamment contre ce cancer.
Donc Claude, là, qui pose la question pour sa petite fille, vous lui conseillez de le faire finalement?
Oui, mais toujours en discutant avec son pédiatre pour voir où est-ce que vous en êtes de la vaccination, quelles sont vos questions, vos craintes. Et donc c'est le pédiatre qui, lui, pourra vous donner les meilleurs éléments, ou le médecin généraliste qui suit votre enfant, mais tout dans la discussion. Aucune coercition, on a parlé de vaccination obligatoire. Celle-ci n'est pas obligatoire, mais elle est franchement recommandée. Si j'avais une fille, moi je le ferais.
D'accord, et alors vous avez des garçons, donc c'est déjà bien, vous n'allez pas vous poser la question pour l'instant, quoique peut-être ça sera bientôt proposé pour les petits garçons aussi. Donc ce Claude-là, s'il fait vacciner sa petite fille, il est sûr qu'elle n'aura jamais de cancer du col à cause d'un HPV, quoi.
Et non, on va limiter le risque. On sait qu'on a quasiment plus de 200 virus d'HPV, et les plus agressifs sont le 16 et le 18, pour lequel on a un vaccin, mais on peut quand même avoir un cancer lié à un autre virus, donc le tout c'est continuer le dépistage. Mais on réduit franchement le risque.
Alors, un dernier argument, hein, si ça peut convaincre les sceptiques, l'OMS a placé la lutte contre le cancer du col utérin via ce vaccin, justement, et le dépistage par frottis, comme l'une de ses priorités pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Claude, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la scarlatine. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, Louis-Marie Poitou, de la Croix-Rouge française, pour faire un point sur les gestes qui sauvent. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes Louis-Marie Poitou de la Croix-Rouge française pour parler des gestes qui sauvent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed, bien sûr. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la scarlatine. C'est quoi cette maladie?
Alors derrière ce nom barbare se cache une angine à une bactérie.
Oh oui, c'est tout.
Eh oui, une bactérie qui s'appelle le streptocoque du groupe A. Donc ça fait très peur. Mais c'est rien d'autre qu'une angine qui donne de la fièvre et des boutons.
Alors, est-ce que c'est grave?
Non, c'est pas grave, puisque finalement, on va assez facilement la reconnaître. On va la traiter, mais ça peut être grave si on ne la traite pas, puisque finalement, on peut avoir une atteinte rénale si on ne guérit pas correctement la scarlatine. Mais globalement, les parents comprennent que lorsqu'on a une angine avec des boutons et de la fièvre et qu'il y a des cas de scarlatine, bah, que c'en est une. Donc globalement, on arrive à la reconnaître et à la traiter assez facilement.
Alors justement, comment on la traite, cette scarlatine?
Alors, celle-ci se traite avec des antibiotiques. Donc pour la confirmer, on fait un petit test de gorge chez le médecin généraliste ou le pédiatre. En 2 minutes, on a le résultat. Si c'est positif, on a la confirmation du diagnostic. Et dans ces cas-là, on prend des antibiotiques. Classiquement, on prend une pénicilline en l'absence d'allergie, de l'amoxicilline, pendant 6 jours, matin et soir, à la même dose, la même durée, que pour une angine classique.
Ah oui.
Donc finalement, c'est juste une angine qui donne des boutons et qu'on traite avec une antibiotique pendant 6 jours.
Et si on traite donc bien, pendant combien de temps l'enfant il peut pas aller à l'école, par exemple?
Alors par contre, ça c'est très important, c'est une maladie à éviction obligatoire. L'enfant n'a pas le droit d'aller en collectivité durant 48 heures d'antibiotiques.
D'accord.
C'est obligatoire parce qu'il y a un vrai risque de contagion. Autant la varicelle, c'est pas une maladie à éviction obligatoire. La rhino et tout le tralala non plus, mais vraiment celle-ci, il faut 48 heures finalement en quarantaine en quelque sorte, avant de pouvoir retourner en collectivité.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on est à la veille de la journée mondiale des premiers secours, sujet dont on va parler avec notre invité Louis-Marie Poitou, responsable du pôle formation à la Croix-Rouge française.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Louis-Marie Poitou.
Bonjour.
Alors d'abord, un peu de contexte peut-être pour bien comprendre pourquoi en France il faut encore appeler à la mobilisation sur ce sujet. On va dire que nous les Français, on n'est pas champion de la formation aux gestes de premier secours.
Non, on n'est pas champion. On estime qu'il y a moins d'un Français sur deux qui est formé. Il y a d'autres pays européens qui font bien mieux que nous, avec les Scandinaves qui sont les champions où quasiment toute la population est formée.
Comment on explique ça? Pourquoi la France, on est si mal formé justement?
Sans doute parce que ça se joue dès le plus jeune âge à l'école, et on sait que là il y a un effort particulier pour que l'école initie et fasse des gestes de premier secours, une conduite citoyenne.
Jimmy,
vous l'avez un petit peu évoqué, vous dites que les Scandinaves sont meilleurs, ils sont vraiment meilleurs que nous en termes de chiffres?
Oui, c'est incomparable. Les Scandinaves, ils peuvent revendiquer 90% presque de la population formée au premier secours, donc c'est incomparable.
Et nous on est aux alentours de...
Je vous disais, on oscille entre un tiers et 50% de la population qui est formée, mais il y a d'autres pays qui font moins bien que nous, donc voilà, on est dans la moyenne.
D'accord, bon, moins d'un Français sur deux formé en France au geste de premier secours, mais il y a aussi un autre chiffre qui est inquiétant, c'est celui du nombre de personnes qui sont témoins, par exemple, d'un malaise cardiaque, un accident, et qui interviennent. Alors là, on est nul aussi.
Oui, la majorité des arrêts cardiaques surviennent en présence de témoins, 7 situations sur 10. Mais très peu de ces témoins passent à l'action, qu'ils aient été formés d'ailleurs ou pas au premier secours. Donc ça, c'est un enjeu. la formation initiale et puis encourager le passage à l'acte.
Comment on l'explique que les gens n'interviennent pas même quand ils sont formés ?
Je pense qu'on peut se mettre à la place de ces témoins. C'est des situations qui surviennent, qui peuvent être bouleversantes. Dans 9 situations sur 10, ça survient auprès d'un proche aussi, donc il y a l'enjeu émotionnel.
Jimmy ?
Et puis parfois on a peur de faire mal ou de mal faire ou de déshabiller, de toucher. Où on parle beaucoup de bouche à bouche, hein, c'est l'angoisse des gens, mais j'ai pas envie de faire du bouche à bouche, ce qu'on peut comprendre. Mais finalement, il faudrait dire aux gens, faites-le plutôt que de mal faire.
Absolument, ne rien faire, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins. Les secours, ils mettent en moyenne 13 minutes pour arriver auprès d'une victime. Donc si on n'agit pas, c'est la mort assurée.
Et quand vous dites, donc là, on est à la veille de la journée mondiale des premiers secours, on dit à la population, allez-y, formez-vous, apprenez ces gestes. C'est valable pour toute la population, même les enfants, par exemple ?
Oui. Ça, c'est très important. À la Croix-Rouge française, on accueille les plus jeunes, on les éveille au premier secours dès 3 à 5 ans.
Dès 3 ans, en maternelle ?
Oui, dès 3 ans.
Qu'est-ce qu'on apprend à 3 ans, par exemple ?
Alors, on accueille les enfants avec leurs parents et on sensibilise aux risques de la maison, parce que c'est à la maison que surviennent le plus d'accidents. Et donc, on apprend à finalement prévenir le danger, à protéger les zones de danger. Et puis, les enfants, à cet âge-là, ils peuvent être aussi sensibilisés au numéro de secours à appeler ou à faire appeler par les adultes.
Il y a eu des cas d'ailleurs, hein, récemment médiatisés d'enfants qui ont sauvé des adultes, c'est ça, hein ?
C'est régulièrement des témoignages qui remontent d'enfants qui ont moins de 10 ans et qui soit passent eux-mêmes l'alerte en appelant le 15, soit encouragent un adulte à le faire.
Et on est capable de faire un massage cardiaque quand on a 10 ans, quoi, par exemple ?
Oui, on a la force suffisante pour faire un massage cardiaque dès 10 ans et si on l'a appris jeune, on aura moins d'appréhension pour le faire le moment venu.
Et ils l'apprennent donc parfois à l'école, hein. Vous l'avez dit, il y a des programmes aujourd'hui. À partir de quel âge on considère qu'on fait des stages à l'école en fait
L'éducation nationale a mis en place un programme qui s'appelle « Apprendre à porter secours ». Et ce programme, il s'adresse aux enfants dès la maternelle, dès le primaire. Ça dépend un peu des écoles, mais l'idée, c'est de toucher le plus jeune âge.
Alors restez avec nous, hein, Louis-Marie Poitou. Dans un instant, on va passer au concret. Vous allez nous éclairer plus en détail sur certains gestes qui sauvent, justement, qu'on peut tous avoir à mettre en pratique un jour.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. On va parler par exemple du massage cardiaque, évidemment, mais aussi quoi faire en cas d'étouffement. C'est l'un des accidents du quotidien les plus fréquents. On vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous, vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Louis-Marie Poitou, responsable de la formation à la Croix-Rouge française. Alors quand on parle des gestes qui sauvent, hein, des premiers secours, on parle de quoi concrètement ? Il faudrait tous qu'on ait le premier degré de secourisme, c'est ce qu'on appelle le PSC1, c'est ça ?
Oui, c'est un acronyme barbare pour dire en fait la formation de 7 heures qui vous permet d'appréhender l'ensemble des situations de premier secours.
Alors, on va rentrer dans l'émission tout de suite dans le concret, on va dire, avec vous. On va parler d'abord d'un des gestes qui est très important à connaître, c'est ce qu'il faut faire en cas d'étouffement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a, notre mari qui s'étouffe avec un bout de viande au restaurant, par exemple ?
Réagir vite, puisqu'il y a un enjeu vital dans cette situation. La personne est privée d'air. Il y a des gestes simples qui sauvent des milliers de vies, les claques dans le dos et les compressions abdominales.
Ça suffit, ça ?
Ça suffit et c'est très efficace. Vous pouvez vraiment, avec vos mains, sauver la vie de cette personne. Des claques dans le dos pour provoquer un mouvement de toux et permettre à la personne d'expulser le corps étranger ou les compressions abdominales si les claques dans le dos ne suffisent pas. C'est les fameuses manœuvres d'Heimlich.
Mais il y a étouffement et étouffement, je crois, quand même. Quel est le petit indice que vous pouvez donner justement pour que la personne reconnaisse bien s'il faut faire la claque ou autre chose, quoi ?
Alors, on parle d'étouffement quand la personne a une obstruction totale des voies aériennes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de son, plus d'air qui passe. Là, on est vraiment face à une personne qui s'étouffe. Les autres situations, c'est ce qu'on appelle des obstructions partielles. Mmh. La personne s'étrangle. Dans ces cas-là, elle va pouvoir, ou en tout cas, elle va essayer de se dégager toute seule.
Et on n'appelle pas les secours, surtout ?
Systématiquement. Hein. Dans ces situations-là, il faut pouvoir solliciter un avis du 15, du médecin, et éventuellement bénéficier d'un renfort médical.
Jimmy ?
Et le cas aussi très fréquent, c'est l'enfant qui fait une fausse route, parce qu'il a mangé une cacahuète qu'on a laissé traîner, parce que voilà, forcément, on n'est pas forcément toujours sur les enfants. Il faut dire aussi aux gens que si l'enfant tousse, c'est plutôt bon signe. Il faut respecter cette toux, parce que comme vous l'avez dit, on arrive à expulser finalement le corps étranger, ou à le faire descendre à un endroit où l'enfant va mieux respirer tout seul. Mais si ça ne marche pas, ça, si finalement la toux n'est pas productive, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les claques dans le dos
De la même manière que pour les adultes, si on observe qu'il n'y a plus de son, plus d'air qui passe, dans ces cas-là, on va faire les mêmes manœuvres.
Même sur un nourrisson, des claques dans le dos.
Oui, on adapte le geste à la corpulence de l'enfant, du nourrisson.
On les met un peu moins fort alors quand même les claques.
On tape moins fort, mais ça aura la même efficacité.
D'accord. Alors on va passer à l'urgence qu'on redoute tous, hein, il faut le dire, c'est le malaise cardiaque. Hein, ça témoigne de quelqu'un comme ça qui s'écroule dans la rue devant nous. Comment on fait pour être sûr d'abord que c'est bien l'arrêt cardiaque qu'on craint tous là?
Quand vous êtes confronté à cette situation, il faut d'abord identifier que la personne est inconsciente. La personne, elle est inconsciente si elle ne répond pas à vos questions simples, à vos ordres simples. Vous lui demandez « Est-ce que vous m'entendez ? Réveille-toi, parle-moi. » Si elle ne vous répond pas, on considère qu'elle est inconsciente.
Et alors ensuite, comment on sait que le cœur, vraiment, il bat plus, quoi ? Parce qu'on peut être juste évanoui et être inconscient, mais on n'est pas en train de forcément de faire un arrêt cardiaque.
Là aussi, il y a un geste simple qui est capital, c'est ce qu'on appelle la libération des voies aériennes. Quand vous êtes inconscient, il y a un risque de chute de la langue au fond de la gorge, l'air ne passe plus. Vous basculez la tête, vous élevez le menton,
en
et là,
arrière,
le passage de l'air peut de nouveau se faire. Si au moment de cette vérification, la personne ne respire pas pendant au moins 10 secondes, on considère qu'elle est inconsciente, qu'elle ne respire pas.
Et on peut dire aussi aux gens que ce n'est plus la peine de prendre le pouls. Parce que souvent, et ça on voit un peu dans les films, c'est plus un geste réservé aux secouristes lorsqu'on cherche le pouls, mais dire aux gens, elle ne respire pas, elle ne bouge pas, c'est donc jusqu'à preuve du contraire un arrêt cardiaque, allez-y. Et là du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence à masser.
Exactement. On entame les manœuvres de massage cardiaque, de réanimation cardiaque le plus vite possible. Si on est en présence d'un témoin, on demande au témoin de passer l'alerte parce que là aussi, il faut que les secours arrivent le plus vite possible. Si possible, il peut aussi récupérer un défibrillateur. Mais nous, on commence très vite les manœuvres et si on est seul, on appelle d'abord les secours avant de réaliser les manœuvres.
Et si on dit aux gens, parce que maintenant, on est un peu perdu dans tous ces numéros, on appelle qui ? Les pompiers, le SAMU, le 112 ?
On appelle le 15. Le 15, c'est le SAMU. C'est celui qui va pouvoir organiser l'arrivée des secours. Mais pas de crainte, si vous appelez le 18, vous aurez aussi le moyen approprié. Et le 112, c'est le numéro européen qui permet de joindre les secours.
Et un truc tout bête, alors c'est pas consensuel ce que je dis, mais parfois je dis aux gens, essayez d'appeler plusieurs services en même temps. Un appelle le 15, si un autre appelle le 18. Vous voyez qui répond en premier, parce que finalement l'urgence, c'est à celui qui répondra le mieux. Tout le monde peut répondre à un arrêt cardiaque.
Alors Louis-Marie Poitou, vous restez avec nous. On va continuer à parler de ce massage cardiaque et de ces gestes qui sauvent. On n'en a pas terminé avec vous.
Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Louis-Marie Poitou, responsable de la formation à la Croix-Rouge française. Alors on a commencé il y a quelques minutes à parler du massage cardiaque qu'il faut entreprendre très vite quand on est témoin de ce type d'accident, de la personne qui s'écroule, qui a le cœur et qui a arrêté, qu'il faut vraiment relancer très vite. Ce massage concrètement, on le fait comment ? C'est quoi le geste ?
Alors le principe du massage cardiaque, ça va être en fait de remplacer le cœur qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal. La victime est au sol, elle est sur un plan dur. Vous la déshabillez et vous placez votre main au milieu de la poitrine, donc la paume de votre main, entre une ligne imaginaire qui est symbolisée par les tétons. Vous posez votre main à cet endroit-là, vous posez votre autre main par-dessus et dans cette position, vous allez entamer le massage cardiaque à proprement parler.
Et des compressions assez fortes, on est d'accord, il faut que ce soit tonique, hein ?
Oui, vous comprimez franchement, on dit 5 à 6 cm, donc il s'agit vraiment d'enfoncer la poitrine pour en fait comprimer le cœur et permettre l'expulsion du sang.
De circuler, effectivement. Et ça doit se faire de manière assez rapide aussi. Hein. Je crois que c'est assez intense, ça fatigue un massage cardiaque.
Oui, donc vous comprimez et vous relâchez d'autant pour que le cœur se remplisse de sang et vous le faites à un rythme d'environ 100 compressions par minute.
Ça va super
effectivement,
vite.
C'est rapide.
Et le mieux, c'est de le faire à deux si on est deux témoins, hein, c'est ça, de se relayer.
Alors c'est de se relayer, on estime qu'au bout de 2 minutes, on commence à perdre en efficacité. C'est vraiment un geste fatigant.
Jimmy ?
Et vous l'avez dit, on déshabille. Donc même si c'est une femme, ça peut être responsable de surmortalité, on déshabille puisque finalement on va lui sauver la vie. Et souvent on parle de risque de fracture de côte parce que c'est ce qui angoisse les gens. On va casser des côtes. J'ai envie de dire aux gens, même si on casse une côte, c'est pas très grave, vous sauvez une vie. Et finalement, honnêtement, le témoin lambda qui masse ne massera pas comme un vrai pompier qui forcément va avoir plus d'énergie. Donc il faut dire aux gens, allez-y, n'ayez pas de crainte et relayez-vous. 2 minutes, c'est très très long. Quand on voit les pompiers masser, au bout de 2 minutes, ils sont en sueur. On a la transpiration et c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est efficace.
Donc, faut faire un bon massage cardiaque, il faut un peu transpirer soi-même.
Il faut transpirer. Et il faut dire aux gens que ça sauve des vies.
Oui, absolument. Et j'encourage d'ailleurs vraiment à passer à l'action puisque le 15 peut vous guider. Vous n'avez pas appris les gestes.
Vous dire, si je ne sais pas faire, je ne l'ai jamais fait. Imaginons, je ne sais pas faire. Donc je appelle le 15. Ils vont m'expliquer comment faire, c'est ça.
Vous avez votre téléphone en haut-parleur, vous êtes en position, ils vont vous dire comment vous positionner, ils vont vous encourager à réaliser ce geste le temps que les secours arrivent.
Et alors vous parliez d'un défibrillateur, éventuellement au début quand il y a le massage, vous dites on récupère le défibrillateur le plus proche, voilà. Ce défibrillateur je veux bien le récupérer, c'est vrai qu'il y en a un peu partout, mais alors est-ce que je vais savoir l'utiliser ?
Oui, un défibrillateur c'est vraiment fait pour fonctionner en toute situation que vous l'ayez déjà vu ou non, en formation notamment, vous l'allumez et il va vous donner la conduite à tenir.
Il parle, en fait, c'est ça.
Il parle, il vous dit quoi faire, positionner les électrodes, vous avez des schémas indicatifs, brancher le connecteur, analyse du rythme cardiaque. Vraiment, c'est lui qui va vous donner la conduite à tenir. Donc, aucune crainte pour vous et aucune crainte pour la victime.
On risque pas de se faire électrocuter en utilisant, parce qu'on se dit défibrillateur, courant électrique. Moi, j'ai un petit peu peur. Je me dirais peut-être c'est dangereux quoi, de l'utiliser, non ?
Il n'y a pas de risque pour vous. Il y a des précautions au moment où le choc est délivré. Et ça, le défibrillateur vous le dit, hein, il vous dit de vous écarter, mais il n'y a pas de risque vital pour vous.
Jimmy ?
Mais justement, parce que c'est vrai, quand on parle de défibrillateur, on se voit dans urgence prendre la palette,
ouais,
dire Carter, choc. Alors que non, pas du tout, c'est vraiment intuitif. Il y a une petite vidéo que vous avez tournée qui sera sur le site d'Europe 1. On montre que c'est vraiment des patchs tout simples. On écoute la machine, choc conseillé ou pas conseillé, on appuie sur un bouton, il n'y a aucun risque. Mais finalement, c'est défibrillateur. Est-ce qu'il y en a assez en France ? Et finalement, concrètement, on est témoin d'un arrêt cardiaque. Où est-ce qu'on sait qu'il y en a ?
Les défibrillateurs, il y en a de plus en plus parce qu'on est conscient de leur efficacité dans ces situations-là. Vous les retrouvez dans tous les lieux qui accueillent du public, gare, aéroport, mairie, école, gymnase, tous les lieux donc, qui permettent finalement au public de pouvoir l'avoir en libre accès. Vous en avez aussi dans les entreprises.
Et si jamais je ne sais pas où la trouver, parce que je ne suis pas forcément dans un lieu public, enfin je suis dans la rue, mais je crois qu'il y a des applications aussi hein, qui permettent de les trouver, c'est ça ?
Oui, il y a des applications qui ont développé des bases de données, des géolocalisations collaboratives où on peut identifier les défibrillateurs. Vous en avez deux principales, Save Life et Staying Alive.
Et ça me permet, bon, on perd un peu de temps à télécharger l'application en espérant qu'on l'a déjà dans son téléphone, mais bon, on y va, on trouve. On gagne vraiment, la personne qui est écroulée par terre, ça va être un vrai plus si je la masse et que j'utilise ce défibrillateur. C'est quoi l'avantage du défibrillateur ?
Il faut bien avoir à l'esprit que chaque minute qui passe, c'est 10% de chances de survie en moins. Et si vous mettez un défibrillateur en œuvre, vous multipliez par 10 les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque.
Non, effectivement, ça vaut le coup, Jimmy.
Ah oui, c'est clair, c'est massage précoce et puis défibrillation précoce. Donc, c'est les deux facteurs évidents. Donc oui, il faut chercher, il faut masser. Et si finalement, parce que moi, je pense que pour ne pas être angoissé, il faut l'avoir fait une fois. Et finalement, on peut passer ces formations dont vous parliez. Où est-ce qu'on peut les passer ? Combien ça coûte ? Comment on fait ?
L'objectif de la journée mondiale des premiers secours qui a lieu ce samedi, c'est justement d'aller à la rencontre du public et de proposer des modules courts, gratuits, des initiations pour tous les âges. Et pour prendre l'exemple du massage cardiaque, on apprend en moins de 30 minutes à faire un massage cardiaque et à poser un défibrillateur.
Et ces formations PSC1, hein, c'est ça le nom, où est-ce qu'on, enfin, on peut les faire chez vous, à la Croix-Rouge, n'importe où, on s'inscrit, ça coûte combien ?
Oui, on forme des dizaines de milliers de personnes chaque année à cette formation. On est présent dans tous les départements de métropole et d'outre-mer. C'est des formations qui accueillent vraiment le grand public. Il ne faut pas avoir de force physique, de capacité particulière pour réussir ces formations.
On passe la journée, on a tous notre diplôme à la fin ou il y a des gens qui ratent ?
Non, parce qu'en fait, vraiment, l'idée derrière, c'est de se dire qu'on est tous capables. Donc, il n'y a pas d'échec.
D'accord. Et c'est à partir de votre majeur quand même, non ? J'imagine qu'il faut avoir 18 ans au moins.
Eh ben non. En fait, vous pouvez vous faire former dès 10 ans à nouveau parce qu'on considère qu'à 10 ans, on est capable de réaliser un massage cardiaque.
Jimmy ?
Et finalement, si on l'a fait, par exemple, je ne sais pas, dans les années 80, on est en 2019, est-ce qu'il faut le refaire ? Est-ce que vous le conseillez de le refaire, je ne sais pas, tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Parce que finalement, ça s'oublie et puis finalement, ça évolue. Il y a 15, 20 ans, on ne parlait pas des défibrillateurs comme maintenant.
On faisait du bouche à bouche tout le temps aussi. Maintenant,
oui.
Je crois que c'est plus trop la mode, non, le bouche à bouche.
Oui, c'est quelque chose qu'on enseigne moins. Et pour répondre à votre question, en fait, même si vous avez été formé il y a un an, il y a 2 ans, on vous encourage à des piqûres de rappel.
Moi,
nouveau,
je l'ai fait il y a 2 ans et franchement, j'ai oublié plein de choses déjà.
En 30 minutes,
sais, hein.
À nouveau, on peut se remettre en tête les conduites à tenir. Sur Internet, vous avez des tutos, des quiz, des vidéos. C'est autant de moyens qui vous, finalement, vous rafraîchissent la mémoire et vous préparent pour
c'est
le
vrai.
Moment venu.
On l'a évoqué, c'est vrai que le bouche à bouche est souvent un frein. Est-ce qu'on peut aussi rappeler aux gens que le bouche à bouche n'est pas obligatoire ? Alors, on peut le faire, mais vraiment, c'est de masser en continu. On est bien plus efficace que de faire des pauses à essayer parfois de faire un peu semblant, parce que c'est vrai que c'est pas très glamour un arrêt cardiaque, hein, on va pas se mentir, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de coller ses lèvres, donc dire aux gens, masser le bouche à bouche, c'est pas obligatoire.
Exactement, on enseigne moins qu'avant le bouche à bouche, précisément parce que les gestes les plus efficaces, c'est le massage cardiaque précoce, la défibrillation précoce.
Donc on n'apprend plus le bouche à bouche en stage de PSC1
si, on l'apprend, mais on ne l'apprend pas notamment dans les formules, dans les initiations les plus courtes, à nouveau parce qu'on cible les gestes les plus efficaces.
Et ce PSC1, ça coûte combien ? Vous avez dit le prix déjà, c'est
La moyenne des prix, ouais. C'est 60 euros. Voilà.
Donc la journée, c'est
La journée de 7 heures, c'est pour vous permettre d'avoir vraiment une vision globale et d'avoir un diplôme qui est reconnu par l'État.
Et là, demain, donc, c'est la journée mondiale des premiers secours. Concrètement, vous, la Croix-Rouge, par exemple, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que partout en France, il y aura des ateliers pour apprendre les gestes qui sauvent ?
Oui, il y en aura partout en France, dans tous les départements, sur plus de 150 manifestations, ouvertes pour tous les âges, avec un lancement national à Versailles toute la journée.
Jimmy ?
Et tout à l'heure, vous avez évoqué un petit peu les outils en ligne, parce que c'est vrai que maintenant, on apprend énormément sur Internet. Est-ce qu'il y a des sites très pratiques, parce qu'on peut voir un peu tout et n'importe quoi ? Est-ce qu'on peut aller sur YouTube et mettre formation aux gestes qui sauvent ? Ou est-ce que vous recommandez, je sais pas, des logiciels, des plateformes où on pourrait se former, finalement, peut-être pas aussi efficacement, mais parfois, c'est vrai qu'on a tendance à dire que j'ai pas le temps, c'est compliqué, on est un peu égoïste, on va pas se mentir, ou parfois on est vraiment débordé. Est-ce qu'il y a des outils en ligne numériques fiables qu'on peut utiliser ?
Moi, je vais vous donner une adresse, hein, c'est nos supports Croix-Rouge, le site internet de la Croix-Rouge, les réseaux sociaux. On a des vidéos, des tutos, des conseils qui permettent vraiment aux gens de s'essayer, de se tester, de découvrir, démystifier ces gestes de premier secours.
Et sur votre site, on souhaite qu'on est sûr qu'on aura les bons conseils, les bons gestes bien mis à jour, etc. etc. Donc c'est super et on va venir nombreux demain, samedi, pour la journée mondiale des premiers secours, assister et apprendre plein de choses. Parce qu'on peut tous sauver une vie, on est d'accord, un jour ou l'autre, ça peut nous arriver. C'est toujours en présence de témoins.
Dans la majorité des cas, et donc on peut avec ses mains voilà, sauver ses proches, sauver un inconnu. Ça, c'est vraiment un message essentiel à avoir à l'esprit. Avec ses mains, on peut sauver des vies.
Merci beaucoup Louis-Marie Poitou d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur ces gestes qui sauvent. Et je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup d'auditeurs qui sont en train de regarder ou passer ce premier niveau de secourisme près de chez eux. On peut tous un jour être amenés à sauver une vie. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Cette semaine, on s'est intéressé à la cystite, l'infection urinaire, très fréquente chez les femmes. On vous donnera plein de conseils pour les éviter et les soigner, bien sûr. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et cette semaine, on parle de la cystite. Aïe, 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 ça fait mal. Et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole à vous qui en avez peut-être déjà eu ou qui en avez souvent. Que faites-vous pour les éviter ? On écoute son micro-trottoir.
C'est quoi, c'est une maladie ? C'est une MST ?
J'ai vécu ça avec ma collègue. Elle en a tous les 15 jours. Et donc, effectivement, ça a l'air plutôt gênant.
C'est la chaude pisse ? Non ? Oui ?
Généralement, c'est pas bon signe.
Personnellement, j'en ai jamais eu.
J'imagine que c'est plus une question féminine que masculine.
J'ai rarement entendu le cas d'hommes ayant des cystites.
C'est une infection urinaire, mais bien heureusement pour moi, j'en ai jamais eu encore.
Ça fait mal quand on fait pipi. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, il y a bien au moins 10 ans, donc je sais plus exactement ce que ça fait, mais c'est désagréable quand on va aux toilettes.
Ça soigne très bien, mais de ce que j'en ai entendu, c'est a priori douloureux et embêtant.
C'est une infection urinaire aggravée. Et ça peut remonter dans les reins et c'est très très douloureux. Je pense que toutes les femmes en ont eu. Les rapports sexuels peuvent donner des infections urinaires. Des vêtements trop serrés, une consommation d'eau peu suffisante.
J'ai entendu dire qu'il fallait boire beaucoup de jus de cranberry pour éviter les cystites. Voilà.
Alors, on va en parler du jus de cranberry un petit peu plus tard. Mais d'abord, Jimmy, c'est quoi concrètement une cystite ?
Alors, cystite, c'est le nom un peu pompeux médical pour dire infection urinaire basse. Ça correspond à l'infection, le plus souvent une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui va coloniser finalement l'arbre urinaire et donner une inflammation, une infection de la vessie, sans remonter jusqu'au rein, parce que dans ces moments-là, on parle de pyélonéphrite. Mm-hmm. Et là, par contre, on a de la fièvre, ça fait encore plus mal et c'est beaucoup plus sévère.
Et c'est donc beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce que là, clairement, les hommes qui étaient interrogés dans le micro-trottoir, on a l'impression qu'ils n'en ont jamais eu, alors que ouais, les femmes, c'est vrai de savoir de quoi elles parlent.
Exactement, c'est lié à des rapports anatomiques. L'urètre est proche de la marge anale et donc forcément, les bactéries peuvent remonter plus facilement. Certains facteurs comme les rapports sexuels, la ménopause, peuvent aussi donner des infections urinaires. Mais attention, l'homme aussi peut en avoir, notamment lorsque la prostate augmente de volume. Ça peut entraîner ce qu'on appelle une prostatite. Et dans ces cas-là, on a exactement les mêmes symptômes. Et encore une fois, on a entendu dans le micro-trottoir, on parlait de chaude pisse, ça n'a strictement rien à voir.
C'est autre chose, la chaude pisse.
Ouais. Exactement, la cystite n'est pas une infection sexuellement transmissible. On risque pas de la transmettre à son ou sa partenaire.
Bon, alors vu que c'est deux fois plus fréquent chez les femmes, au moins, enfin en tout cas qu'une femme sur deux risque d'en avoir une, rassurez-nous vite, comment on fait pour l'éviter ?
Alors, effectivement, souvent on cherche à traiter la cystite, mais on se demande pas pourquoi j'ai une cystite. Alors il y a un facteur déjà très simple, c'est la constipation. Si vous êtes constipé, il faut régulariser votre transit, car sinon il y aura une translocation bactérienne et vous risquez les cystites. La deuxième chose, c'est de boire correctement. On voit beaucoup de cystites en été, puisque finalement, on transpire, on élimine, et l'urine est un peu moins importante, et comme elle stagne, elle s'infecte. Essayez, lorsque vous faites votre toilette, de s'essuyer d'avant en arrière.
Pour
on
les
éduque
femmes,
aussi les petites filles, justement, à bien se laver comme ça, éviter les vêtements trop serrés, et puis finalement, règle générale, avec ces quelques règles, on s'en sort pas trop mal.
Il y a un jeune homme qui parlait du jus de cranberry, là, ou de la canneberge, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est des petites baies rouges, soi-disant anticystites. Est-ce que c'est vrai, ça marche?
Oui, ça marche, c'est scientifiquement prouvé. La canneberge agit sur le pH et permet à la bactérie de ne pas s'accrocher sur l'arbre urinaire, donc elle détruit les lésions entre la bactérie et finalement l'appareil urinaire. Donc vous allez éviter les cystites et ça permet de guérir un peu plus rapidement. Donc c'est un vrai traitement qu'on propose souvent à la pharmacie, mais qui marche.
Mais les petites boissons qu'il y a au supermarché, des jus de cranberry, là ça ne suffit pas ça quand même.
Alors dans les études, il n'y a pas de différence d'efficacité entre les gélules et le jus. Le seul problème, c'est que le jus disponible souvent en grande surface, il est plein de sucre, c'est pas du 100% pur jus, il n'est pas bio. Donc si vous voulez prendre du jus, prenez du 100% pur jus et du bio. Et à ce moment-là, ce sera aussi équivalent que les petites gélules. Parce que souvent, les patients me disent « Oh non, mais j'ai l'impression d'être malade en prenant des cachets de cranberry. » Vous pouvez, dans ces cas-là, prendre du jus. Ça coûte un tout petit peu plus cher.
Rassurez-nous rapidement, ça se traite très bien, la cystite, quand même?
Oui, ça se traite avec un antibiotique. On traite de moins en moins avec des antibiotiques de longue durée. On prend souvent un sachet en une dose et puis on n'en parle plus. On ne fait même pas d'analyse d'urine dans les cas simples. Et puis parfois, il faut prendre un traitement pendant plusieurs jours. Mais rassurez-vous, ça se traite avec un antibiotique. Il suffit juste de consulter votre médecin généraliste.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous deux.
Alors aujourd'hui, on parle de sexualité et de culpabilité avec cette question de Simone, 48 ans, je vous la lis. Après 20 ans de vie maritale aimante, donnant lieu à 2 enfants, mon mari m'a quittée. Il m'aura fallu plusieurs mois pour éponger tantôt mon chagrin, tantôt ma colère. Depuis peu, je me suis apaisée et j'ai cessé de vivre dans l'illusion de son retour, à tel point d'ailleurs que j'ai eu une aventure qui s'est avérée être délicieuse, qui n'était pas vraiment d'ailleurs le cas avec mon mari. Mais voilà, je me sens très coupable, j'ai l'impression d'avoir commis un adultère. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est un peu fou quand même l'histoire de Simone, elle se remet enfin en selle, si je puis dire, après une séparation difficile et douloureuse, on l'a compris, et finalement elle culpabilise, c'est elle qui culpabilise, c'est fou ça.
Oui, c'est fou, mais ça raconte moins une histoire de couple que ça raconte son rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bon, eh bien là, elle a posé quelque chose qui serait coupable. Donc c'est ce qui pose évidemment la question, est-ce que sa sexualité avec son partenaire était de cet ordre-là ?
Ça n'avait pas l'air, oui, effectivement. Voilà. Si, ce n'était pas le cas avec mon mari, elle le dit. Elle
exactement, voilà. Donc dans la mesure où effectivement sa sexualité était plutôt doucerette, et bien tout d'un coup, et certainement que son couple participait et servait à ça, c'est-à-dire à cacher un peu cet épanouissement sexuel de la femme qu'elle est. Et puis là, la porte s'est ouverte parce que le mari est parti et se pose la question d'écrire sa sexualité. Et donc, ce sont des culpabilités qui n'ont strictement rien à voir avec sa vie d'adulte et sa vie maritale, mais bien avec la lecture qu'elle a de la sexualité depuis qu'elle est enfant, dans son rapport à la société, à ses parents, etc.
Jimmy ?
Oui, parce qu'elle culpabilise, mais elle n'a trompé personne. Son mari l'a quittée et puis en plus, ça ne se passait pas super bien. Finalement, elle n'a pas de raison de faire tout ça, de se sentir coupable.
Elle a peut-être trompé d'autres personnages, c'est-à-dire si on a dans une famille, si on a l'idée que une femme qui fait l'amour est une femme de petite vertu ou qui prend du plaisir, n'est pas une femme bien comme il faut, et bien tout d'un coup être rentrée de ce côté-là en étant célibataire, puisque finalement elle fait l'amour avec un homme hors mariage, etc., c'est là qu'elle devient une femme qui trompe des codes, qui trompe des codes moraux, et voire religieux, mais en tout cas des codes moraux familiaux.
Et c'est fréquent de culpabiliser comme ça, parce que même quand on a été quitté finalement, c'est peut-être parce qu'elle justement elle dit qu'elle a passé 20 ans de vie maritale aimante, plutôt avec une sexualité, entre peu dans les détails, on ne sait pas tout, mais quand même l'autre l'a blessée, donc c'est peut-être aussi qu'elle n'oublie pas tout ça aussi, il n'y a pas une culpabilité par rapport à ça.
Oui, qu'il y a une culpabilité en tout cas au renoncement, au masochisme de souffrir éternellement l'absence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre doit rester ce que je m'en étais dit, l'homme de ma vie, le père de mes enfants, la chair de ma chair, et tout d'un coup ma chair s'ébranle, ma chair s'émeut avec quelqu'un d'autre qui est peut-être d'ailleurs que de passage, et je me suis autorisée ça, et c'est là sa grande culpabilité.
Jimmy ?
Et comment est-ce qu'on fait pour effacer 20 ans de vie commune, fait de bons et de mauvais moments ? Est-ce qu'il faut attendre un certain temps ? Est-ce qu'elle aurait peut-être dû se laisser encore, parce qu'elle dit quelques mois, mais peut-être un peu plus pour que ça cicatrise, ou finalement, elle a bien fait ?
On est tous différents. Il y a des gens qui sont capables de garder le souvenir extrêmement frais, qui l'alimente, qui l'arrose régulièrement, une façon de ne pas accepter le réel de l'autre qui est parti. D'ailleurs, qui ont une idée de l'amour au-delà de ce qu'elle était en réalité, c'est-à-dire il y a eu des bons et des mauvais moments, mais il y a eu des mauvais moments, et finalement, ils ne retiennent que les bons moments de façon masochiste, pas de façon, parce qu'on pourrait retenir ce qui est une très bonne chose, mais juste parce que comme si le couple, c'était de toute façon ce truc un peu compliqué. Et là, tout d'un coup, elle est libre, elle a tout à écrire, et elle en a envie, tout en se sentant très coupable, de cette liberté-là. Et effectivement, c'est une façon de toujours raccrocher l'autre à soi, le porter en soi, porter la douleur, exister par le côté mère-douleur, femme-douleur, pendant que l'autre va qu'à sa vie amoureuse et sexuelle. Et c'est lui le salaud, bien sûr. Donc si tout d'un coup, lui, il est parti, c'est le salaud, puisqu'il est allé faire l'amour ailleurs. Donc si moi, je me mets à faire l'amour et je me mets à y prendre du plaisir, je le deviens aussi. D'où la difficulté, évidemment, à assumer cette découverte-là. Puisque ça répare l'autre, hein, ça arrête de l'accuser.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à Simone et à tous ceux qui doivent ou qui ont envie, hein, plutôt d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, hein, de refaire leur vie après une séparation? D'abord, il vaut mieux s'amuser, ou est-ce qu'il faut vraiment se mettre, peut-être pour Simone, elle aurait dû se mettre en quête du prochain grand amour de sa vie?
Il n'y a pas de règle, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de juste rencontrer des gens pour juste se dire qu'il y a d'autres possibles. Et puis après, ils feront tranquillement ce qui aura un peu plus de sens pour eux. Et d'autres qui ont besoin justement d'asseoir des qualités relationnelles pour réparer les relations qui n'étaient pas de qualité précédemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi. Et vous aussi Jimmy Mohamed, votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage.
Europe 1, Mélanie Gomez.